C'est l'esprit des lieux sur Radio Barthas. Bienvenue. Vous êtes au cœur d'un territoire vivant, niché dans des paysages que l'on dit caractéristiques. Ce territoire évolue tous les jours grâce aux femmes et aux hommes qui y posent des pierres, prennent des décisions, qui récoltent et sèment des plantes, qui se déplacent sur ces chemins. Derrière nous, des siècles d'histoire et d'intervention ont façonné le décor. Et nous voici, acteurs, consommateurs, à nous de jouer et de faire des choix, à nous d'agir ou pas, pour poursuivre la construction ou la déconstruction, tout simplement pour vivre au mieux ensemble sur cette géographie si particulière, le tout connecté au monde qui nous entoure et aux lois qui régissent les sociétés humaines. Je vous propose le temps d'un entretien radiophonique d'évoquer ces liens si particuliers. Tentons de conjuguer l'action et le territoire en compagnie d'une ou d'un invité, de parler de nos paysages et de ce qu'on décide d'en faire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Alex Gilles, présidente de l'association Abraham Mazel à Saint-Jean-du-Gard. Elle m'accueille dans le hameau de Falguière, dans cette maison robuste et massive qui domine la vallée du Gardon de Mialet, la maison natale d'Abraham Mazel, qui fut camisard et qui n'a cessé ici ou ailleurs de lutter pour la liberté de conscience. Aujourd'hui, à travers la découverte de ce lieu et de cette association, de ses actions, nous partons dans une partie rocailleuse de l'âme cévenole, celle qui résiste et qui tourne son regard vers l'accueil des opprimés. Une émission enregistrée dans le cadre de la journée spéciale sur les migrants, organisée par Radio Barthas le 18 décembre.
Vous regardez pas, hein, s'il vous plaît.
Non, j'ai rien vu.
Ah, celle-là. Bon. Mais c'est pas ça, c'est pas possible, je me trompe complètement, voilà. Il y a même deux serrures. Toutes les portes sont en châtaignier. On a essayé de garder à la maison son caractère.
Ça se voit, ouais. Pardon.
On va commencer par le bouc. Ici, c'est des artistes qui ont donné des œuvres pour les vendre au profit de la Maison Mazel, puisque, bon, comme toutes les associations, on est toujours en train de chercher des sous pour le fonctionnement et aussi pour finir les travaux. Voilà.
D'accord.
Ici. Il y a le projet d'agrandir une fenêtre là et d'en faire, je crois que c'est fermé. Oui, c'est fermé. D'en faire un studio pour avoir une résidence d'artistes, de chercheurs ou de cinéastes, bon, sur les thèmes qui sont les nôtres, quoi, la résistance.
D'accord.
Voilà.
Donc quelqu'un qui viendrait créer une œuvre ou...
Ouais.
D'accord. Bienvenue à Falguière, dans la maison natale d'Abraham Mazel. Nous sommes avec Alex Gilles qui nous fait visiter les lieux. Il va nous expliquer l'histoire de ce personnage et comment est née l'association du même nom.
En 95, quand on a acheté la maison en 95, on a lancé l'opération 8000 pierres. Les gens achetaient une pierre ou une demi-pierre ou un quart de pierre, je pense que c'était 100 francs français,
ah oui.
À l'époque. Voilà. Et c'était pour pouvoir acheter la maison. Et ça a marché, plus un gros subside. Et ils ont pu acheter la maison donc en 95.
Et la maison appartenait à qui? Un privé?
À nos familles Salles, voilà la dernière occupante de la maison dans la cuisine, qui est maintenant la cuisine du gardien. Elle venait seulement l'été, il faut dire que c'était extrêmement mauvais état.
Ouais.
Il y a beaucoup de maisons comme ça où les gens viennent seulement l'été ici.
Et comment savait-on que c'était vraiment la maison d'Abraham Mazel? Il y avait des documents historiques?
Ah, je crois que oui. Et en plus, Abraham Mazel a écrit tout ce qu'il faisait. Enfin, on a le récit par lui-même de sa vie, de ses actions, etc. On dit toujours, il n'y a que son portrait qui manque. On ne sait pas à quoi il ressemblait. Sinon, Abraham Mazel, il est né en 1677. Donc, il a vécu ici avec ses parents, il était quart d'heure de l'Aisne. le mot Mazel, il y a des mazels partout, hein, des endroits qui s'appellent le Mazel, etc. C'est un rapport avec les moutons, soit l'endroit où on les tue, où on les tond, où on les parque, ou je ne sais pas, mais c'est un rapport avec les moutons. Donc il a vécu ici jusqu'à ce qu'il déclenche la guerre des Cévennes en 1702 avec l'assassinat de l'abbé Duchesla au pont de Montvert.
Parce qu'Abraham Mazel faisait partie de cette équipée qui est partie au pont de Montvert.
Voilà, c'est ça, oui. Donc ce n'est pas une belle histoire de non-violence, hein. Nous on est plutôt dans la non-violence.
Oui, oui.
L'époque fait qu'Abraham Mazel disait lui-même qu'il était plus prophète que chef de guerre.
D'accord, voilà, mais quand même, le sang a coulé.
Le sang, voilà. Ouais. Alors, il y a une belle histoire autour de ça, quand même, dans toute cette horreur de la guerre des Cévennes, hein, de 1702 à 1704. C'est qu'après le pont de Montvert, ils sont venus attaquer l'église Saint-Martin de Corconac, à l'Estréchure. Mmh. Une belle église romane qui existe toujours, achetée maintenant par un musicien avec qui on a des bonnes relations, qui refait l'église, qui organise des stages dans son église, etc., des concerts. Voilà. Et quand Abraham Mazel est arrivé et qu'il a vu le prieur en train de lire sa Bible, c'était la chose qu'ils avaient en commun, évidemment, la Bible, le prêtre catholique et le protestant. Il lui a laissé la vie sauve. Bon, ils ont tout cassé, hein, mais il n'a pas assassiné le prieur.
Ouais.
Ce qui fait que quand Mazel a été arrêté ici, de l'autre côté du Gardon, près du château de Marouls, qui existe encore, qu'on voit là, le prieur lui a renvoyé l'ascenseur, comme on dit. C'est-à-dire qu'il lui a évité d'être trucidé et il a seulement été envoyé à la tour de Constance, qui était encore sans doute une prison mixte à cette époque-là.
D'accord, qui était située où ?
À Aiguemorte.
Ah d'accord, Aiguemorte là.
La tour voilà, où a été enfermé Marie Durand.
D'accord.
Et de là,
il n'est pas parti aux galères, Abraham Mazel ?
Non, il a été enfermé là-bas et s'en est échappé avec d'autres, je crois avec des draps de lit, enfin le truc classique, le grand classique.
Comme dans les films.
Comme dans les films. Et de là, il est parti en Suisse, aux Pays-Bas, en Angleterre, et il est revenu pour soulever le Vivarais, hein, la région de Viviers, donc en Ardèche. Et puis, alors, il s'est retrouvé près d'Uzès où il a été dénoncé, et alors là, il a été... tué sur place, sans jugement, bien sûr. Après ça, on a coupé la tête, on a dispersé les morceaux. Enfin bon, oui.
Ah oui, d'accord.
Bon, on en a rajouté. Oui. Et alors, la maison ici, ça faisait partie de la peine. On casse le toit pour que la maison soit inhabitable.
Ah oui, d'accord.
Après ça, elle a dû être mise en état puisque des gens l'ont occupé, hein, cette maison-là.
Mais moi, j'ai lu que les dragons du roi ont cassé des villages entiers, des hameaux, pour faire fuir ces habitants qui leur résistaient.
Et ils ont aussi dans des rassemblés, emmenés à Montpellier, etc.
Ah, oui. Mais en fait, ils n'ont pas réussi à détruire ce pays, c'était pas possible.
Mais le pays
la pierre était trop solide, ou les têtes étaient trop solides, je sais pas.
Les têtes étaient sûrement dures, parce qu'ici, c'est un pays dur. Hein.
Ouais.
Bon. Et puis, c'était la guérilla contre l'armée, quoi. Les dragons du roi, ils connaissaient pas les chemins, les sentiers, les grottes, les cachettes. Hein. Donc, oui. Il y avait cette infériorité-là dans le combat, bien qu'ils avaient le nombre, les armes, etc.
Et votre association, c'est l'association Abraham Mazel, vous l'avez expliqué tout à l'heure, qui s'est créée après la lutte contre le barrage de la Borée.
Oui.
Et pourtant, vous avez pris le nom d'un résistant camisard avec une connotation religieuse. Est-ce que la religion, ça, c'est toujours inclus dans cette association ? Est-ce qu'elle est toujours présente ? Ou alors est-ce que, finalement, elle s'efface ? C'est juste l'histoire de la résistance camisarde.
Dans la lutte contre le barrage de la Borée, je l'ai dit, il y avait pas mal de protestants du coin qui ont fait appel aux protestants à l'étranger. Et ça a été un déclencheur.
Donc c'était le réseau, quoi.
Voilà, ça a été important pour la réussite. Ouais. Ça est arrivé sur le bureau de Michel Rocard à l'époque. Voilà. Ouais. Mais quand on a créé l'association, dans la maison, c'est sûr, d'un chef camisard, on a voulu que ce soit une association loi 1901 pour ne pas être fermé sur le monde protestant.
D'accord.
Voilà, donc dans l'association, je vous répondrai qu'il y a toujours une certaine dose de protestants, mais qu'il y a des gens de toutes les sortes.
Ouais. Oui, c'est pas uniquement focalisé là-dessus.
On y tient beaucoup.
Hein. Oui, d'accord.
Alors, cette maquette, elle a été faite au tout début de l'association. Donc, c'est ce qu'on voulait faire. Et en fait, là, le paillet qu'on voulait remonter, ben, on a eu besoin des pierres pour construire une pièce supplémentaire qu'on ira voir, une grande salle de réunion qui forcément n'existait pas dans une maison en Cévenol. Je crois que c'est 70 mètres carrés ou même plus. Donc, on n'a pas pu faire cette maquette. On a fait autre chose. Il y a une petite tour, comme à beaucoup de maisons, par ici. On n'a pas faite. L'architecte, on a rêve d'en faire une, donc ça serait là. Je pense que c'est un peu un luxe.
Donc là, vous avez là, on est devant une maquette qui représente la maison Abraham Mazel. Enfin, c'est un projet, en fait. C'est un projet de reconstruction.
La réhabilitation en cours, ben oui. Et puis, bon, ben, le projet, il a évolué, quoi.
Mais la maquette est vraiment superbe. Qui c'est qui avait réalisé cette maquette ?
Je l'ai déjà demandé, je ne l'ai pas retenu. Étant donné que j'étais pas là à l'époque, ouais. Je ne peux pas le dire.
En tout cas, c'est une très belle maquette qui représente le paysage, le versant. On voit bien les bancelles, les murets en pierre sèche et une maison complètement rénovée avec une grande terrasse.
Oui, ben la terrasse, on va aller la voir, elle existe quand même.
Elle existe
quand même. Toujours l'exposition d'œuvres inspirées par la maison.
Voilà,
ça
d'accord.
C'est ça reconnaît.
Ouais. Ah oui, tout à fait.
Je passe, c'est ton fils. Vieux père, voilà ton fils. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, voilà ton fils. Je suis revenu après 5 ans d'exil. Des millions de jeunes sans boulot, tous la main tendue, avec une chanson commune. Vieux père, voilà ton fils. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, voilà ton fils. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, parle à ton fils. Je suis revenu un jour dans mon pays. N'y a qu'un mélange où te barala, où be yarala, moi où t'ala. Donc il n'y a pas de béye, où be olélara. Vieux père, voilà ton fils. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, voilà ton fils. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, parle à ton fils. Voilà ton fils. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, voilà ton fils. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, parle à ton fils. Kona madoke daye jamana tjena. Kona makodo nyanyini denu tjena. Ekole tike denu tjena. Kona makodo ke doye denu tjena. Bara tike denu tjena. Ubi yala yala mo udala lulu. Vieux père, voilà ton fils. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, parle à ton fils. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, voilà ton fils. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, parle à ton fils. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, voilà ton fils.
Kenja Fakoli avec le titre Vieux Père. On continue la visite de la maison Abraham Mazel dans la grande salle. Nous sommes toujours en compagnie d'Alix Gilles.
Ici, des Mancelles. Là où il y a les deux grands arbres, c'est aussi, ça fait partie de la propriété. Là, il y a le jardin potager du gardien, qui a de grands espaces. Là, c'est les plus beaux terrains, quoi. Là, quelques Mancelles. Et le tronc qu'on voit là-bas, c'est parce qu'on est en contact avec une association de Kanak en France, qu'on a reçue ici, avec qui on a fait la cérémonie qui s'appelle « Faire la coutume ». Donc une sorte d'invitation sur notre territoire, et d'échange de cadeaux, etc. Donc il y a le projet de construire une case Kanak.
D'accord.
Et le chef coutumier qui vit en France et qui veut faire ça, c'est pour que les jeunes Kanak qui sont étudiants ici à gauche, à droite, ne perdent pas complètement leur culture. Donc il essaye d'en rassembler pour venir faire une sorte de chantier, mais ça ne s'est pas fait tout l'été. Je crois que voilà, il a du mal à les rassembler. Mais ça se fera un jour, je crois. Du coup, on aura une case là-bas qui peut servir lors de nos rencontres d'été, par exemple, pour faire une activité à l'ombre. Parce que c'est l'ombre qui compte à ce moment-là.
Donc on vient d'arriver à la maison Abraham Mazel à Falguière et tout de suite on entend que c'est un lieu multiculturel,
oui.
Ouvert sur le monde.
Oui, c'est ça, on peut le dire comme ça. Là dans le creux, c'est la vallée du Gardon, donc, sur lequel on vient de passer. Et c'est donc la vallée qui devait être noyée dans le projet de barrage de la Bourille. En 92, l'arrêté d'utilité publique a été cassé par le Conseil d'État. Voilà, donc la lutte a abouti à un bon résultat. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont investis là-dedans, des gens qui sont venus squatter les maisons, des gens qui sont venus de Paris, qui sont restés dans la région. Ça a beaucoup remué. Et bon, les protestants du coin étaient très impliqués aussi, parce que c'est un peu la vallée où il y a eu la guerre des Camisards, enfin un peu tout à fait même.
Hein. Oui.
Et les gens qui avaient participé à tout ça étaient très soudés. Ils le sont encore maintenant, hein, je le constate, moi qui n'étais pas là à ce moment-là. Et ils ont décidé à la fin de rester ensemble pour faire quelque chose pour plutôt que quelque chose contre. Parce que cette lutte contre le barrage a duré des années. Hein. Voilà. Donc l'association Abraham Mazel est née comme ça.
D'accord. J'ai un élu, l'élu de Gabriac et Jean-Max André, que j'ai interviewé à ce micro et qui m'en a parlé.
Ah oui ?
Il a fait partie de cette lutte.
Ouais.
Tout à fait.
Il y a des films, il y a des documents. Et notre but, c'est de faire de cette maison une maison de résistance, avec notamment une partie de qui comprendrait cette histoire du barrage de la Bourille, quoi. Un centre de documentation sur les résistances d'hier. Mais on va pas passer sous silence les Camisards, d'autant plus qu'on est dans la maison d'un Camisard. Mmh. Mais il y a le musée Ami Allais qui est très bien pour ça, hein. Mmh. Le musée du désert.
Musée du désert.
Voilà. Donc ici on aura des choses sur les Camisards, sur Mazel, sur la lutte contre le barrage de la Bourille, sur les maquis dans le coin, entre 40 et 45, ah oui. Notamment quelque chose qu'on a aimé mettre en évidence l'année dernière avec toute une animation autour de ça, les antifascistes allemands qui étaient dans les maquis du coin.
Ah oui, c'est vrai.
Encore très très connu. Hein.
Ouais.
Voilà.
C'était des résistants allemands.
Oui, oui, qui revenaient souvent d'Espagne. Hein. Il y avait aussi des Espagnols, il y avait aussi des Polonais, mais enfin, il y a une stèle à Saint-Romain-de-Tousque avec les noms, et on voit des noms qui ne sont pas du tout français. Quoi. Il y a tout un paquet d'Allemands qui sont morts ici dans les maquis. Et puis à Volda Oiseau, j'y étais le dimanche dernier, là, il y avait une balade du Fira au Mont-Donnet. Au Mont-Donnet, c'est à 5 km d'ici à Volda Oiseau, dans la vallée, près de Saint-Étienne, vallée française. Et là, il y a eu une jeune fille de 19 ans, Juliette Bénichoux, qui était juive et qui a été cachée pendant la guerre. Et il y en a des tas, il y en a beaucoup ici. Hein. Tout le monde connaît le Chambon sur Lignon, mais moi, je connais à Saint-Jean des gens dont le père a caché. Enfin, c'est pas toujours connu ni reconnu, mais c'est quelque chose aussi qu'on voudrait mettre en évidence dans
D'accord.
notre centre de documentation.
Bon, on va continuer à faire le tour de la maison.
On fait tout. En neuf, ça n'existait pas. Et ça fait je ne sais pas quelle surface, mais c'est Ça fait partie des locaux qu'on souhaite pouvoir mettre à disposition d'associations. Et on espère que ça serait une petite source de revenus supplémentaires.
Donc c'est une grande salle, hein,
une grande salle. En fait, on peut mettre à disposition la salle d'exposition au deuxième, le théâtre de verdure, le barnum, voilà. Le four à pain, bon voilà.
Et c'est un équipement qui n'existe pas actuellement sur le secteur, pour les associations ?
Pour les associations, je ne crois pas. Il y a une salle à Loustal, au centre socioculturel.
Enfin, en tout cas, une salle comme ça dans un environnement...
Dans l'environnement, ça, je ne crois pas que ça existe.
Mais c'est sûr.
Voilà.
Et donc, sur les murs autour de cette salle, sont affichés des portraits de résistants du monde entier.
De la résistance aux résistances, construire l'avenir debout. Donc, un autre atelier mémoire de Gilles Roumieux avec d'autres élèves que ceux qu'on a vus en haut. Et là, il y a à chaque fois paroles d'ados, des choses qu'ils ont dites, eux. Ils ont choisi, ils ont fait des portraits, ils ont... Voilà.
C'est présenté comme des tweets, en fait. Hein. On reconnaît le logo de Twitter, donc c'est quelque chose d'assez assez moderne, on va dire. Voilà, et donc on a Gandhi, Germaine Tillon, Martin Luther King, Massoud.
Denis Mukwege, l'homme qui redonne vie au corps des femmes, là, ce gynécologue qui répare les femmes violées. Et violentée en Afrique. Voilà. Et on va continuer à collaborer. Donc ici, on a eu... c'était quel jour, là ? On est le 7.
Ouais.
C'était le 31 octobre. Et la salle ici a été transformée en théâtre. On avait enlevé les suspensions, là, l'éclairage. Et on avait des bars avec les spots, des rideaux, etc. Et on a une soirée de théâtre avec le théâtre des rues, qui est un théâtre d'action, La fin de l'ombre rouge, d'après Svetlana Alexievitch, qui a eu le Nobel de littérature en 2015.
D'accord.
Donc c'est un petit peu la fin du communisme, des témoignages de gens qui ont vécu. Enfin, il faut lire ce bouquin, c'est un bouquin extraordinaire et très... Très choc comme ça, très prenant.
Et qui a organisé cette pièce de théâtre ici ?
Ah ben nous, évidemment. D'accord. Nous, hein. On a dû refuser du monde parce que la mise en scène faisait qu'on n'avait que 40 places. Alors on peut mettre plus que 40 personnes ici, hein, mais les gens étaient assis à des tables. Donc, et alors du coup, on a dû refuser des gens.
Ouais. Hmm.
Et c'est une pièce qui a tourné dans le coin ici. C'est fini maintenant depuis hier, je crois. Mais ils l'ont donné 4-5 fois...
Et donc la maison Abraham Mazel se transforme en lieu de culture, en fait.
Ah oui, ça, de culture depuis longtemps, mais en théâtre comme ça,
en
avec
théâtre.
Tout l'équipement, là, ça, j'avais encore jamais vu, c'était beau à voir.
Ah, c'est super.
Ouais, ouais. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à l'époque des Camisards, c'était pas du tout le même paysage. Tous ces pins sont venus bien après, hein. Ils se sont disséminés à partir des cultures. Oui, des plantations de pins faites pour les mines d'Alès, par exemple. Puis ça s'est répandu partout. Donc à l'époque, c'était plutôt troupeaux, celles cultivées. Hein, c'était, vous le savez, hein, beaucoup plus peuplé que maintenant. Donc quand les camisards se cachaient, c'était pas dans les bois, c'était plutôt dans des grottes.
Et d'ailleurs, moi je me dis, parce que les camisards se déplaçaient énormément...
Oui,
dans les montagnes, ils se donnaient des rendez-vous incroyables à plusieurs dizaines de kilomètres.
Pour nous.
Mais c'est vrai que ce couvert boisé d'aujourd'hui nous perturbe un petit peu la lecture qu'il devait avoir du territoire.
Oui, ça devait être très différent.
Ouais.
Parce que c'était beaucoup plus peuplé, beaucoup plus cultivé. Et tous ces pins, je n'oserais pas dire de quand ils datent, mais peut-être du 18e ou du 19e siècle. Hein. Ça, peut-être même encore après, j'en sais rien. En fait.
Bah, les mines, je crois que c'est fin 19e, début 20e. Hein.
L'essor des mines, d'un certain moment.
L'essor des mines.
Déjà avant. Mais...
Et cette histoire des camisards et de la résistance en général, vous la sentez encore vivante sur ce territoire ?
Oui, les gens sont... Moi, je suis belge, hein, je ne suis pas d'ici, je suis ici depuis 25 ans environ, mais les gens d'ici sont toujours très imprégnés de ça, hein, comme on parle beaucoup d'identité, mais il y a des tas de bouquins qui sortent tout le temps sur les Cévennes et sur les camisards et des... des fragments de l'histoire de guerre de religion, ces sujets de romans, d'études historiques sans arrêt. Hein. Les gens en ont toujours tout à fait la mémoire. Ils s'identifient encore aux camisards. Et des fois, il y a une confusion chez certains entre maquisard et camisard.
C'est vrai, mais les termes ne nous aident pas.
Non, ça finit en art, mais voilà. Bon, les canards aussi. Mais bon,
et donc vous, votre association, vous êtes un des acteurs justement de cet état d'esprit qui cherche à faire vivre encore ces notions de résistance chez nos contemporains.
Oui, mais plutôt tourné vers le présent. Je dirais, cette maison ne sera jamais un musée, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Par exemple, là, pour le moment, on s'est impliqué dans l'accueil d'une ou deux familles de réfugiés, de migrants à Saint-Jean-du-Gard. Comme on connaît les associations, on aura paré comme des gens sérieux, sans doute. On a pu rassembler l'Oustal, les Restos du Cœur, la paroisse protestante, Cévennes sans frontières. Et on a mis tous ces gens-là autour de la table et ça a abouti à accueillir une famille tchétchène qui est là depuis un an et demi, voilà, qui est en train de renouveler sa demande pour avoir ses papiers ce mois-ci. Et bon, on les soutient, on les accompagne. Et on s'est impliqué là-dedans parce que ça, c'est pas du tout dans nos objectifs, dans nos statuts de faire du social, de faire du caritatif, mais il nous a semblé que c'était la prolongation des gens qui autrefois ont accueilli les Juifs ici dans le coin et que ça fait partie de l'esprit de résistance pour le 21e siècle. Et quand on voit comment ça s'est passé pendant la guerre de 40, ben ces gens-là qui ont accueilli des Juifs, ils ont bien pris beaucoup plus de risques que ce que nous on fait, même si ça nous donne beaucoup de travail et qu'on on organise toutes sortes de choses pour gagner de l'argent, etc. Mais c'est rien du tout comme risque, hein, se comprend. Voilà, il faut remettre les choses à leur place, je trouve. Donc oui, on essaye de faire vivre l'esprit de résistance. Bon, on a fait ici des informations, par exemple, sur le taffeta, sur les gaz de schiste, sur tous les conflits, les luttes de résistance actuelles, quand on est en plein dedans.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que derrière un nom d'une association, Abraham Mazel, qui est un chef camisard, derrière ce nom... vous embrassez aujourd'hui des causes parfois très différentes, mais jamais divergentes en tout cas. C'est toujours des causes qui vous semblent finalement se réunir et converger vers un idéal de résistance à l'oppression.
Oui, à toutes les formes d'oppression, à la dissolution, si je peux dire comme ça, la destruction des solidarités. Voilà, je crois qu'il y a de quoi faire, hein, on n'a pas fini.
Et pourquoi cette association, donc elle est née autour du barrage de la Borie, aujourd'hui elle est-ce un hasard si elle est basée à Saint-Jean-du-Gard?
Non, puisque ça dépend du barrage de la Borie et que la maison est sur le territoire de la commune de Saint-Jean-du-Gard.
Voilà, donc
les gens qui ont voulu commencer ça, c'était des gens de Mialet, de Saint-Jean-du-Gard. Il y a eu des profs d'histoire, il y a eu des gens qui étaient venus pour la lutte contre le barrage. Ce n'est pas que des gens locaux, nos adhérents et les fondateurs non plus, mais c'est quand même tout à fait ancré ici.
Voilà. Et vous pensez que vous gagneriez sans doute à être connu au-delà des Cévennes méridionales, je dirais. Parce que là-bas, il y a pas mal de résistance aussi côté nord, là-bas, un peu plus dans les montagnes.
Oui, ben on prévoit un jour une information sur ce qui se passe à Bure, parce qu'il se fait que le fils d'un membre, il s'est fait détruire le pied en manifestant à Bure avec une grenade tirée. Ouais. Un jour, sans doute, il viendra en parler ici. Dès à présent, on a des liens avec des universités, que ce soit Dijon, Paris, Aix-Toulouse, beaucoup Toulouse, le Mirail. Donc on n'est pas confiné dans notre petite région. Et le but, c'est aussi de créer des liens, je dirais même à travers l'Europe, si possible. On n'est pas renfermé sur les Cévennes.
Hein. Enfin, en tout cas, maintenant, depuis quelques années, vous avez un lieu, vous avez cette maison.
Voilà.
C'est quand même un atout indéniable. Vous avez un lieu matériel où vous pouvez accueillir des expositions, des gens.
Quand on fait les rencontres d'été, le premier week-end de juillet, donc c'est 3 jours de conférences. Maintenant, on ajoute aussi des ateliers, des expositions. On pense à des conférences gesticulées pour l'année prochaine. On a des gens du niveau universitaire, des profs, tout ça, qui viennent de Paris, d'un peu partout. Et on ne offre pas de cachet, nous, on ne peut pas jouer dans ce genre de relations-là. Donc on prend en charge leur déplacement, leur logement, ils sont logés chez des amis, ils sont nourris bien sûr, voilà. Mais ils sont toujours tellement enchantés de se retrouver ici. Et je le comprends bien, parce que j'ai vécu assez longtemps en ville. Pour eux, c'est magnifique. Dans l'amphithéâtre que je vous ai montré, on monte un barnum et les conférences se font sous le barnum, voilà, avec une atmosphère qui est déjà un pied dans les vacances et un pied dans la réflexion, quoi.
Un pied dans les vacances, un pied dans la résistance.
Et un pied dans la résistance, si vous voulez. Ouais.
Et vous me parliez d'accueil de migrants.
Oui.
Accueil de réfugiés,
oui.
C'est effectivement, on voit poindre dans ce territoire cévenol des initiatives de part et d'autre du territoire. Il y a une association aussi là, assez active qui s'est montée à Genolac.
Ah, oui.
Est-ce que les Cévennes portent en elles une sorte d'ADN comme ça d'accueil de migrants, de réfugiés, parce que c'est pas la première fois quand même, c'est pas, enfin
je voudrais savoir
dans la grande histoire, quoi.
Ouais, je voudrais savoir ce qui se passe ailleurs. Je ne suis pas tellement, mais je crois qu'il y a quand même des accueils maintenant un peu partout.
Oui.
C'est sûr que dans les Cévennes ça s'est propagé quand on a commencé nous en 2016. J'ai l'impression qu'on était les seuls. Puis il y a une grande coordination qui s'est faite à l'Est. Et puis maintenant il y a des réunions à Saint-Hippolyte. Et puis j'apprends qu'il y a des Syriens à Saint-Germain-de-Calberte. Enfin bon, à Monoblé il y en a d'autres. À La Salle, ça c'est une tradition chez eux, à La Salle. Ils ont 19 Afghans il y a 5-6 ans. Bon, ils sont rodés. Mais je n'oserais pas dire que c'est une tradition cévenole. Je pense que ça serait prétentieux.
Oui. Mais en tout cas, est-ce que ce territoire peut sonner, enfin, ou sonne comme une seconde chance pour des gens dans la détresse ou des gens qui cherchent un lieu où s'installer de nouveau? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose ici, un ferment pour en tout cas se confronter à une nouvelle vie?
Je dirais que beaucoup de ceux qui sont là comme réfugiés n'ont pas nécessairement choisi de venir ici. Mmh. Bon, quand c'est des gens des villes, même, ça leur est très difficile d'accepter de vivre dans des coins perdus comme ça. Mmh. Donc ça, c'est mon expérience avec des familles.
Il ne faut pas être angélique, quoi. C'est,
voilà. Est-ce que vraiment ils ont envie de rester? Je peux dire que la famille dont on s'occupe à Saint-Jean, ils ont envie de rester, ça c'est sûr. Ils sont... Mais c'est des gens particulièrement sociables, intelligents, débrouillards. Ils ont créé des liens, déjà. Voilà.
D'accord.
Mais je ne voudrais pas dire pour... Je ne peux pas dire pour l'ensemble des gens.
Ouais. Hein. Et... Est-ce que ces gens aussi, ces populations qui arrivent aujourd'hui dans les Cévennes, ne sont-elles pas également une chance pour les Cévennes?
Oh, ça se pourrait très bien, comme ce qu'on appelait ici les hippies il y a quelques années, hein, ceux qui se sont accrochés ici, avec leur fromage de chèvre ou leur miel, etc. Bon, ben, c'est eux qui ont fait vivre les écoles avec leurs enfants. Donc on peut imaginer la même chose pour les réfugiés. Mmh. Mais est-ce qu'ils vont tous rester? Je n'en sais rien.
Non, ils vont sans doute pas tous rester.
Il y a des gens qui veulent rentrer chez eux quand c'est des pays comme la Syrie, je pense. Mais des gens qui sont dans des pays vraiment de dictature, etc. Comme, je ne sais pas s'ils auront envie de retourner. Mmh. Parce qu'ils seraient en danger encore.
Oui. Après, ça dépend.
Ça
dépend des cas.
Oui.
Mais en tout cas, la chaîne de solidarité, elle est... Elle est active ici.
Oui, oui, je trouve. Mmh. Oui. Il a fallu faire une soirée d'information au cinéma du village en février 2016. Et puis de là, quand les gens ont posé leurs questions, qu'ils ont vu que l'accueil officiel par l'État, ça ne marchait pas fort. Bon, je ne dis pas que ça n'a pas fini par marcher un peu maintenant quand même. Mais bon, il n'y avait rien qui bougeait. Il y avait des mairies qui avaient préparé des appartements. Il n'y avait rien. Bon, alors on a dit, nous, on ne va pas... On ne va pas trier les gens entre réfugiés, soi-disant des pays, des seuls pays en guerre, Afghanistan, Syrie, bon, tous les gens qui se mettent en route comme ça avec les risques qu'ils prennent, et ils ont des bonnes raisons de le faire. Donc on a dit on va pas trier, et, ben, nous ce sont des Tchétchènes qu'on nous a envoyés, voilà. Des gens qui étaient des sous-tentes dans la rue à Nîmes, hein, avec des enfants, déjà avec deux enfants scolarisés. Donc, j'ai oublié votre question du départ, là, maintenant.
Moi aussi.
Bon, allez-moi la talente.
Et vous êtes combien dans l'association pour faire vivre, en fait, cette maison et,
moi, je dirais
et toutes les activités à côté?
Autour de 130 adhérents. Environ, ah, vous voulez des chiffres, environ 2000 personnes qui passent ici sur l'année, ou ici, ou parfois au cinéma du village, parce que par exemple là, on va projeter un film jeudi prochain, bon, on le fait pas ici, on le fera d'accord, à la salle de, ouais, très belle salle de cinéma en bas. Mais en tout, ça fait environ 2000 personnes qui participent à quelque chose qu'on organise sur l'année. Alors, le conseil d'administration, bah, ça fait, je crois, 14 personnes. On était réunis ici hier. Et puis, il y a des bénévoles qui sont pas dans le conseil d'administration. Mmh. Mais voilà, hier, on a construit un escalier. Bon, c'est deux personnes qui sont membres, mais qui sont pas dans le conseil d'administration. Mais on trouve de l'aide comme ça. On a des gens qui nous soutiennent.
Et vous êtes en réseau avec d'autres associations, vous l'avez dit tout à l'heure, et qu'en est-il des collectivités? Est-ce que vous vous sentez appuyé, ou disons que les élus du territoire sont à l'écoute, ou alors c'est deux mondes qui se côtoient l'un à côté de l'autre?
Bonne question. Bon, je vais d'abord donner encore un chiffre, hein, par an, ce qu'on a comme subvention, un peu moins de 2000 euros. Mmh. Bon, vous voyez ce que ça représente, ça vient de l'agglo. Mmh. Du conseil départemental, voilà. Mm. Par contre, on a eu récemment la visite d'Olivier Gaillard, élu de En Marche, élu député, voilà. Il a eu l'air de s'intéresser à ce qu'on faisait, à suivre. De toute façon, on ne sera jamais inféodé à un parti ou à un autre.
Mm. Oui, vous êtes libre.
Ah ben oui, mais libre et pauvre, hein, mais...
Mais oui.
De toute façon, toutes les associations sont à la même enseigne, hein, ouais. C'est pas...
De toute façon, pour vous, c'est essentiel, vous devez être libre.
Oui, et tout ce qu'on fait, on le fait à prix libre.
Ouais.
Et bon, voilà, on arrive encore à faire parfois du bénéfice. Hein.
Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé à entrer dans ce conseil d'administration de l'association Abraham Mazel avant d'en devenir présidente, quand vous êtes arrivée ici?
Oui, bon, c'était pas quand je suis arrivée ici, j'étais là déjà depuis un certain temps. J'ai d'abord participé aux activités, et puis je me suis engagée un peu plus dans la préparation de telle ou telle activité. Et puis, bon, moi j'ai un grand amour des Cévennes. C'est ici que j'ai vraiment choisi de vivre. Et puis, ben, mon passé de militante en Belgique dans le domaine du mouvement de la paix, du tiers-monde, des droits de l'homme, etc. Bah, il est remonté à la surface ici et je me suis réengagée. Voilà.
Vous avez trouvé un écho ici favorable à ces idées-là?
Ça m'a redonné envie, alors que je suis restée plusieurs années sans rien faire de militant. Hein, mais ça m'a donné envie à nouveau de m'engager. Quoi.
Et comment vous voyez l'avenir des... Alors, on a parlé tout à l'heure de la résistance ici actuellement, que vous la trouvez encore vivante. Mmh. Mais l'avenir des Cévennes en général, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce territoire? Comment vous le percevez aujourd'hui? C'est pas une question facile.
Non, c'est pas une question facile. C'est peut-être une question plus pour des économistes et des sociologues que pour moi. Mais bon, nous, ici, on défend un tourisme, c'est quand même important, le tourisme. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à offrir ici, sinon le calme, la beauté des paysages, un tourisme qui ne soit pas industriel, qui soit respectueux des gens et du paysage. Par exemple, on s'est engagé contre une espèce de camping Disneyland dans la vallée de la Salandrin, qui est ici à côté. Bon, on a soutenu le comité d'habitants qui, voilà, qui luttait contre ça. L'avenir des Cévennes... Moi, je le vois avec le développement d'un tourisme soft, parlons français, allez, doux, j'allais dire slow, c'est encore du pas français, mais je pense que les gens auront de plus en plus besoin de se ressourcer, d'avoir de vivre un moment dans un endroit où il y a le silence. Moi, je ne peux plus m'en passer, dans un endroit calme. Je pense que le tourisme est un atout, voilà. À part ça, il n'y aura jamais d'industrie ici. Et c'est vrai que les gens rament pour trouver un emploi, hein, ça, c'est sûr.
Ouais, il faut se le créer, l'emploi, souvent.
Voilà. Oui, mais c'est un peu tout en vivant dans les Cévennes. Je me suis fait la réflexion, quand j'étais pas encore dans les Cévennes, j'allais à des concerts. Ici, c'est moi qui ai chanté dans des concerts, dans les chorales. Hein. J'allais à des expositions. Ici, c'est moi qui ai fait des expositions. J'ai peint, j'ai fait de l'aquarelle, j'ai fait du pastel. Bon, maintenant, j'ai plus le temps à cause de l'association, mais voilà. Donc, il faut s'animer soi-même. Mmh. Et c'est beaucoup plus intéressant, d'ailleurs. Et dans les Cévennes, on rencontre des tas de gens qui ont, comme je dis, moi, quelque chose dans le ventre. Les gens qui ont choisi d'être ici, bon, forcément, on a tous des choses en commun.
D'où l'esprit de résistance qui est encore actif et vivant ?
Peut-être.
Parce qu'il vient du ventre, celui-là.
Oui, c'est sûr. Il n'est pas que la mémoire et cultiver le passé en restant assis dessus. Hein, c'est... Et ici, il y a quand même pas mal de gens qui... que ce soit dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture, des circuits courts, il y a quand même des tas de choses. À Anduze, ils essayent de faire une monnaie locale. Bon, ça bouge. Je pense qu'on n'a aucune raison de s'ennuyer ici si on veut bien sortir de chez soi.
Non, voilà. Ouais. Et je trouve que c'est pas un territoire qui est en retard, en fait, sur toutes ces notions-là.
Je ne pense pas. Non, en retard au point de vue du téléphone, parce qu'il y a des tas de gens tout le temps sans téléphone ou sans réseau, ce qu'ils ne peuvent pas avoir Internet, tout ça, c'est encore un gros problème. Par ici, mais si vous êtes à Florac, vous devez le savoir.
Tout à fait.
Bon. Ça, là, il y a un retard du côté
technologique.
Technologique, voilà. Mais dans l'âme des gens, là, je crois qu'on rencontre plein de gens intéressants. Qui font de la musique, qui donnent des stages, qui font des ateliers d'écriture, qui font... Enfin, moi, c'est des choses qui m'intéressent, évidemment. Hein. Peut-être que d'autres diront, il ne se passe rien ici, on s'embête.
Les âmes sont en avance, la technologie est en retard.
Oui, sûrement. Et ce qui manque, c'est... En général, ce n'est pas la technologie, c'est l'âme.
Ouais. Bien, Alix, Gilles, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans la maison Abraham Mazel. Peut-être une info sur l'association, les activités, est-ce qu'il y a une date à donner, un site internet, quelque chose pour les auditeurs et auditrices de Radio Barthas.
Oui, vous pouvez suivre tout ce qu'on fait sur le site abrahammazel.eu et sur la page Facebook de Association Abraham Mazel. C'est moi qui la tiens assez bien en ordre, tandis que sur le site, j'ai du mal, je dois me faire aider. Mais la page Facebook, elle suit vraiment bien tout ce qu'on fait. Prochaine activité, c'est à la salle Stevenson, au cinéma du village, jeudi le 16 novembre à 20h, dans le cadre du mois palestinien. Le film sous-titré en français, film italo-palestinien. Moi, je suis avec la mariée. C'est une histoire de réfugiés, mais pour une fois qui doit être assez rigolote. Il monte un faux cortège de mariage pour se déplacer d'Italie en Suède pour aller demander l'asile politique en Suède. Et voilà, donc ce sont un faux cortège de mariés qui traverse l'Europe. Ça doit pas être mal. Et puis le 24 novembre, on aura ici une soirée autour d'Emmanuel Bolella qui a écrit un témoignage sur son parcours de réfugié depuis le Congo jusqu'aux Pays-Bas, où il vit maintenant. Et il a été très touché par le sort des femmes candidates réfugiées au Maroc. Donc il veut ouvrir une maison un peu pour les mettre à l'abri là-bas. Et cette soirée sera au profit de ce projet qu'il a. Et on m'a déjà dit que son bouquin était passionnant.
Nous avons passé quelques minutes ici dans la maison Abraham Mazel et nous avons... parler d'Afrique, de Palestine, de Nouvelle-Calédonie, de Cévennes, de Suisse, d'Angleterre, et j'en passe. C'est vraiment un endroit ouvert sur le monde.
Ça, c'est une bonne conclusion.
À bientôt, merci, Alix Gilles. C'était L'Esprit des lieux sur Radio Barthas. Christophe était à la technique, et donc au montage. Un gros boulot, n'est-ce pas, Christophe? Eric était à l'animation et à l'improvisation. Oui, c'était une émission sur le vif et dans l'action. Rendez-vous dans 15 jours aux horaires habituels pour une rediffusion. Et merci à tous ceux qui ont participé à cette journée spéciale migrants organisée par la radio. À bientôt dans l'Esprit des Lieux.